Nous avons étudié déjà l'omniprésence, l'omniscience, et nous arrivons à l'omnipuissance. Nous allons lire dans Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous avions déjà lu cela en étudiant l'omniscience. Bien sûr, ces trois attributs, omniprésence, omniscience et omnipuissance, tiennent. En réalité, on pourrait très bien les englober dans une seule et même étude. Et puis, lisons maintenant dans le psaume 33, psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Nous pouvons aussi lire Job 42, chapitre 42, verset 2. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Tu peux tout, je reconnais que tu peux tout. Dans la Genèse, chapitre 18, verset 4, ce sont en somme des petits sondages que nous faisons là, mais bien des versets pourraient être alignés au compte de cette vérité de la toute-puissance de Dieu. Chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? On ne peut pas s'étonner des actions de l'Éternel, car il peut tout, comme nous l'avons lu. Et puis tout de même, un passage des Évangiles. Vous voyez que dans toute l'Écriture, ces choses se trouvent affirmées. Matthieu 19 et verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Voilà donc établi la toute-puissance ou l'omnipuissance de Dieu. Alors maintenant, méditons sur cet attribut. Dieu peut tout, mais il est certain qu'à notre esprit, cela pose quelques problèmes et qu'il ne faut pas, évidemment, manquer d'examiner. La méditation, c'est bien pour cela. Le tout, c'est de méditer avec la foi, non pas en doutant, mais avec une foi entière. Dieu peut tout, mais il n'use de cette puissance que selon la sagesse de toutes ses œuvres et selon son grand mobile qu'il se donne lui-même et qui est l'amour. Le grand, l'unique grand mobile de Dieu pour ses œuvres, c'est l'amour. Crée-t-il quelque chose? C'est selon son amour. Et tout de suite, n'est-ce pas, je le dis en forme, en somme, de digression pour l'instant, mais il est bon de le noter. Si Dieu a ce grand mobile pour toute action, c'est bien qu'il veut conserver ses œuvres. L'amour ne veut pas perdre. L'amour veut conserver. Donc Dieu crée pour garder, pour conserver. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas faire une perte. Le Seigneur Jésus nous l'a montré, par exemple, dans la parabole de la brebis qui s'est égarée. Il laisse les 99 brebis qui l'ont suivi sur les montagnes et puis il court à travers monts et vallées à la recherche de la brebis qui manque, la centième. Parce que Dieu ne veut pas subir une perte. Alors pensons à cela pour le salut, chers amis. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas subir une perte. Il en subira, mais c'est parce qu'il a laissé à sa créature l'homme la liberté. Seulement Dieu s'est employé par tous les moyens dont il dispose et qui sont immenses à solliciter l'homme pour que, par la foi, c'est-à-dire par un libre retour à lui, ils viennent pour recevoir la grâce du pardon des péchés, le salut et la vie éternelle. Dieu ne veut pas perdre. La toute-puissance de Dieu reste bien entendu infinie, c'est-à-dire illimitée, mais c'est dans son emploi, dans l'emploi de cette puissance, qu'elle se limite elle-même. Dieu conçoit librement ses desseins, dont rien ne peut, a priori, limiter l'ampleur, cependant que dans cette conception de ses desseins, eh bien, il y a toujours raison donnée à l'amour et à la sagesse. Dans toute conception de Dieu, car l'Écriture nous montre bien sûr que lorsque Dieu fait quelque chose, crée, agit, il a d'abord conçu, il a conçu un dessein. Et dans toute conception de Dieu, prennent place des lois qu'il s'est donné lui-même, des lois naturelles, en même temps que des lois spirituelles que Dieu a établies lui-même. Ainsi, l'exercice de la puissance de Dieu est illimité, bien sûr, mais se limite lui-même au gré de l'amour de et de la sagesse de Dieu. L'exercice, notons-le bien, d'une puissance illimitée ne peut pas se faire dans le désordre, dans l'aventure, sans une réflexion préalable, sans un tracé préalable. Une puissance, n'est-ce pas, illimitée qui agirait dans l'aventure, qui agirait en somme, disons, dans l'anarchie, n'est-ce pas, parviendrait à la destruction de tout au retour au néant, bien entendu. L'homme pécheur, il y a toujours une différence, n'est-ce pas, il faut la noter, entre Dieu et l'homme, bien sûr. L'homme pécheur, lui, lorsqu'il dispose d'une puissance de réalisation, lorsqu'il dispose d'un potentiel d'énergie toujours plus élevé, alors il met tout cela aussitôt en œuvre pour se donner, par exemple, un arsenal terrifiant, c'est ce que nous voyons maintenant. Si on mettait en jeu l'arsenal de la Terre, mes amis, que serions-nous? Où irions-nous? Heureusement que Dieu empêche l'homme de se servir de cet arsenal. Ou encore, l'homme utiliserait utilise sa puissance pour la satisfaction de quelques-uns. La satisfaction d'un nombre réduit d'hommes. Il y a toujours des hommes privilégiés, il y aura toujours des classes, il y en a même en Russie, n'est-ce pas, où l'on avait prétendu abolir les classes. Et alors, c'est toujours à la satisfaction de quelques-uns, et non pas à la bonne satisfaction de tous les hommes. Donc l'homme use de la puissance sans aucune sagesse. Et par conséquent, il détruit le cadre de son existence. C'est bien ce que nous voyons avec la pollution sous toutes ses formes, qui détruit le cadre de vie de l'homme. L'homme n'a pas de sagesse. Et l'on peut dire qu'il est dirigé, il est poussé essentiellement par des intentions de gain, des intentions de prééminence, des intentions de domination, et par conséquent, en dehors de toute sagesse. Mais lorsque l'homme se soumet à la volonté de Dieu et se place en Jésus-Christ dans la communion du Père et du Fils, lorsqu'il devient un véritable enfant de Dieu, alors Jésus-Christ lui-même, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut noter, Jésus-Christ lui-même lui dit, eh bien mon ami, à ce moment-là, la puissance illimitée de Dieu, on va te la confier. Si tu es vraiment tu vis dans la communion, et Jésus l'a dit en termes nets, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, quelqu'un dont les paroles du Seigneur demeurent, ça veut dire, n'est-ce pas, que ce quelqu'un les connaît, les garde, les observe, il est dans la communion au Père et au Fils, il vit dans une relation vivante avec Dieu et avec Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, Jésus-Christ lui dit, eh bien, tu vois la puissance illimitée de Dieu, Dieu te la prête. En effet, il est dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Plus de limitations. Les limitations tombent. Parce que la sagesse est apparue alors là dans le cœur de l'homme. Bien sûr, le Saint-Esprit est au cœur de l'homme, la sagesse y est. Si Jésus-Christ y est, la sagesse y est. N'est-ce pas ? Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ou encore, ceci, une déclaration du Seigneur extraordinaire. Si vous aviez de la foi comme un grain de senvé, alors, si vous aviez de la foi comme un grain de senvé, vous garderiez les paroles, bien sûr, de votre maître pour vivre selon ses paroles, vivre selon l'esprit. Alors, à ce moment-là, si vous aviez de la foi comme un grain de senvé, rien ne vous serait impossible. Alors que c'est à Dieu que rien n'est impossible. Eh bien, à vous aussi, rien ne vous serait impossible. Vous diriez à cette montagne, c'est une figure, bien sûr, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, et elle vous obéirait. Vous diriez à cet arbre, ceci comment, va te planter dans le sable de la mer, il vous obéirait. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez donc, n'est-ce pas, que quand la sagesse prend place, alors là, la puissance illimitée est à l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme, bien sûr, qui demeure dans ses œuvres mauvaises, qui rejette Dieu, veut se donner, lui, une énergie sur le plan physique, matériel, il veut se donner toujours davantage d'énergie pour en faire davantage de dégâts. Voilà ce que nous dirons de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Et maintenant, nous allons en venir au troisième groupe des attributs de Dieu, ce troisième groupe étant sagesse, liberté, véracité de Dieu. Sagesse, liberté, véracité. Prenons d'abord la sagesse. Alors, elle nous est affirmée, bien sûr, dans d'assez nombreux textes. Nous en prendrons quelques-uns. Job 9, 4. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément ? Voyez-vous ? Comme ici, le Saint-Esprit nous montre bien que la sagesse et la toute-puissance collaborent. La toute-puissance, n'est-ce pas, ne s'exerce pas en méconnaissance de la sagesse, mais au contraire, ensemble, ensemble. Alors, voici un verset, prenons toujours Job, chapitre 12, verset 13. « En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, ce qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche, il les lâche et la terre en est dévastée, il possède la force et la prudence, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres, il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. » Et je m'arrête là. Nous pourrions se lire évidemment tout le passage qui continue dans le même sens. Notons ici les termes que nous avons trouvés, conseil, intelligence. Le conseil, l'intelligence, le conseil, c'est bien entendu la réflexion qui est la partie, le caractère dominant de la sagesse. La sagesse est la science de la réflexion, nous dit le livre des Proverbes. Alors, notons cela, le conseil, l'intelligence. On ne peut pas dire que l'homme soit intelligent dans l'utilisation des richesses de la terre et de l'énergie qui lui est déjà maintenant accordée à profusion et dont il veut toujours davantage. On ne peut pas dire que c'est par intelligence. Il a une intelligence et qui, bien sûr, lui a permis des réalisations, des découvertes de siècle en siècle et surtout d'année en année, disons. Dans les temps modernes, l'homme est parvenu à mettre à jour certains des grands mystères qui enveloppaient jusque-là la matière ou la vie. Il a fait toutes sortes de découvertes, il en a tiré des techniques, et ces techniques sont extraordinaires, il faut bien le dire, prodigieuses, ces techniques, hein, bien sûr. Mais on ne peut pas, là, c'est une forme d'intelligence. C'est l'intelligence en tant que faculté naturelle. Mais ce n'est pas l'intelligence dans son véritable développement, ce n'est pas l'intelligence spirituelle dont parle Paul. Sagesse et intelligence spirituelle dans les Colossiens. Hein, ce n'est pas cela, vous voyez, l'homme n'a pas cette intelligence, tandis que cette sagesse et cette intelligence sont en Dieu. Toujours Job 28, chapitre 28 et verset 12, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler. » C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Nous notons que la sagesse et l'intelligence n'ont qu'une seule source. La Bible, en général, les associe toujours. Sagesse et intelligence. Dieu seul en a la clé lorsque Satan s'insurgea contre Dieu et voulut lui entreprendre une œuvre, un univers même, indépendamment de Dieu, en marge de Dieu. Au début, il ne voulait pas faire quelque chose contre Dieu, mais en marge de Dieu, il voulait être d'abord l'égal du Très-Haut, puis ensuite même supérieur au Très-Haut, au-dessus du Très-Haut, au-dessus de Dieu. Il voulait, en somme, différencier son œuvre, avoir une œuvre originale à lui. Beaucoup d'hommes qui cèdent à ce penchant-là, même dans l'Église, et cela n'est pas bon. Attention, dans l'Église, on ne fait pas une œuvre personnelle. On fait une œuvre collective, d'ensemble. On travaille tous ensemble, dans le lien fraternel. Eh bien, alors Satan, lui, quand il fit cela, perdit la sagesse. Instantanément, il perdit la sagesse. C'était hors de la sagesse. Travailler hors de Dieu, sans Dieu, en marge de Dieu, n'est-ce pas, même si ça n'est pas contre lui, tout cela nous différencie de la sagesse, et la puissance que Satan détient s'emploie donc au mal. Il ne peut pas en être autrement. Alors nous arrivons à ceci, c'est qu'on ne peut rien faire sans Dieu, rien faire sans Dieu, tout ce qu'on prétend faire sans lui, hors de lui, eh bien tout cela aboutit, va contribuer à la grande débâcle, à la grande destruction générale, au retour au néant. Ce que Dieu ne laissera pas faire, ses jugements interviendront à ça. Il faut savoir ces choses, et c'est absolu ce que je vous dis là. Il n'y a pas de moyen terme, c'est absolu. Et nous lirons encore dans le psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Toutes les œuvres, il les a faites avec sagesse. Cette sagesse absolue qui est la sienne, si bien que ce que Dieu a fait apporte du bien, ou des biens, n'est-ce pas ? Des biens. Et nous avons aussi Ésaïe 28. Ah, il faut, vous savez, le plus largement possible consulter le Saint-Livre, si l'on veut s'instruire. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse. C'était Ésaïe 28, 29. Romains 11, 33. Alors le Nouveau Testament aussi. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est-à-dire, en somme, les moyens et les directions qu'empruntent les actes de Dieu, tout cela est incompréhensible, bien sûr, pour nous maintenant. Plus tard, nous connaîtrons, comme nous sommes connus maintenant, comme nous avons été connus, plus tard nous connaîtrons. Plus tard, pour nous, Dieu sera clair, net, il n'y aura rien de caché en lui. Mais plus tard, quand nous serons auprès de lui, quand nous serons nous-mêmes dans l'état de perfection, il faut être dans cet état pour connaître Dieu. Alors, je ne vais pas plus loin, il y a d'autres passages aussi, mais cela nous suffit. Un homme, peut-on dire, peut devenir très savant, sans en être pour autant plus sage. Sans en être plus sage. Et il y a tout de même des hommes qui ont quelques raisons et qui ont disserté là-dessus, n'est-ce pas ? Pendant un moment, on disait, oh, répandez l'instruction, on disait ça au 19e siècle, répandez l'instruction partout, donnez de l'instruction, beaucoup d'instruction, et vous verrez, n'est-ce pas, que l'humanité deviendra sage. Depuis, on est bien revenu de cela. C'est pas l'instruction qui rend sage. Je dirais que dans certains moments, la grande culture rend fou. La grande culture égare. Et ceux qui nous égarent sont des grands intellectuels. Ah oui, ils sont des grands intellectuels, parce que tout sur la terre vient de l'idée. Alors ils sont très forts pour concevoir des idées et les répandre. Et des idées qui, chemin faisant, conduisent l'humanité au mal. Cette perte d'autorité aujourd'hui, cette anti-autorité, cette anti-société, tous ces germes-là, viennent de quoi ? Oh, mais de très haut. Ils viennent de cerveaux très cultivés. C'est Nietzsche lui-même qui avait dit, et qui avait dans le fond souhaité, que le nihilisme soit en marche. Et il a dit, le nihilisme est déjà en marche. Et rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter. Il reconnaissait, lui, Nietzsche, il reconnaissait la sainteté du Seigneur Jésus. Il avait lu les évangiles. Oh oui. Reconnaissait la sainteté de Jésus-Christ. Mais ça ne lui plaisait pas. Il la reconnaissait comme un fait. Et il n'aimait pas ça. Il préférait le nihilisme. Il préférait de beaucoup cela. C'est quelque chose d'inimaginable, n'est-ce pas, que de constater que tant d'hommes parvenus à de hautes connaissances, ayant eu des dons naturels, ont nui terriblement à l'humanité en répandant sur elle toutes sortes d'idées et qui ont faussé la marche. L'homme n'est pas sage lorsqu'il utilise sa science et les possibilités qu'elle lui donne sans se soucier aucunement de la morale. Et c'est certains, après Einstein, certains savants ont senti à notre époque le grand besoin d'une remontée morale de l'humanité. Les connaissances acquises par l'humanité, malheureusement, ne sont pas associées avec un état moral de même niveau. Le monde qui dispose de la puissance des techniques les utilise sans aucune sagesse. Il fait passer les intérêts économiques avant le bien des hommes et avant leur sécurité. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Il se console avec des statistiques. Oh, pas, comme on dit par exemple sur les routes, pas, eh bien, il y a une régression de 1,5%, de 1,8% sur le nombre des morts. Ça peut aller. Ça peut aller, n'est-ce pas ? Moi, j'aime bien ce genre de consolation, n'est-ce pas ? Ça peut aller, ça diminue, voyez-vous ? Très bien, n'est-ce pas ? Oh, frère Tati, comment voulez-vous que cela s'appelle sagesse ? Nous arrivons maintenant à la liberté de Dieu. La liberté de Dieu est affirmée dans l'Écriture aussi, mais pas tellement par le moyen du mot liberté. C'est pas tellement le mot liberté. Alors, vous savez qu'il faut faire attention, ce n'est pas avec une concordance que l'on peut étudier une question dans la Bible. Oui, ça peut aider, la concordance aide. Mais si on veut prendre un mot et puis tout ce qui nous est cité ce mot, d'ailleurs, nos concordances sont très incomplètes. Et puis, en plus de ça, n'est-ce pas, le thème, un thème n'est pas entièrement solidaire d'un seul mot. Si bien que les études faites par ce moyen-là sont des études quelquefois très incomplètes, très imparfaites. Alors, il faut aller chercher autre chose. Et nous pouvons, par exemple, lire dans Romains 9, verset 11, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et que par la seule volonté de celui qui appelle, je note cela vraiment, par la seule volonté, voyez-vous, de celui qui appelle. Donc Dieu ne s'en rapporte qu'à sa seule volonté, il est libre de cela. Au verset 28 du même chapitre, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il l'a résolu lui-même, sans aucune influence s'exerçant sur lui. Il a résolu cela. Et alors, dans ce que nous n'avons pas dans la Bible second, c'est que tout le passage qui suit du chapitre 9, c'est-à-dire à partir du verset 19 jusqu'à la fin à peu près, la théobée, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, et de même d'ailleurs la traduction synodale dans le même sens, mais enfin je prends surtout la théobée. La théobée a mis un sous-titre ici, à partir du verset 19, et ce sous-titre est « Souveraine liberté de Dieu ». Tel est bien le sens du passage « Souveraine liberté de Dieu ». Je ne vais pas vous lire beaucoup de choses, sinon encore un peu dans les Éphésiens. Les Éphésiens, chapitre 1, verset 5. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez-vous, Dieu, n'est-ce pas, n'écoute que sa volonté. Lui seul est parfait, lui seul est souverain. Il est libre. Aucune contrainte ne s'exerce sur Dieu. Il est entièrement libre. Dans le verset 9 aussi, du même chapitre, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il a formé un dessein en lui-même. Il n'est pas allé chercher des considérants étrangers, hors de lui, mais en lui-même. Je ne vais pas plus loin, mais enfin, vous voyez que c'est bien le sens de l'enseignement des Écritures sur la personne de Dieu. Dieu est souverainement libre. Je rappelle d'ailleurs que Dieu le Père est souverain, c'est lui qui décide. Dieu le Fils dans la Trinité, Dieu le Fils accomplit les desseins du Père. Il est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu accomplit, c'est elle qui exécute. C'est pourquoi sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Ce que Dieu lui avait donné à accomplir, tout est accompli. Ça, c'est, il faut, d'ailleurs pour accomplir, il faut être parole de Dieu, donc il faut être Dieu. Et puis, alors le Saint-Esprit, lui, communique. Il prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce, et nous le donne, et nous l'apporte à chacun. Le Saint-Esprit, lui, communique. C'est lui, n'est-ce pas, qui va nous apporter les grâces qui nous sont destinées. Pour que Dieu donne à la sagesse entière satisfaction dans toutes ses œuvres, il faut bien qu'il soit libre de le faire. Hein? Et ce n'est pas toujours le cas des hommes. Ils voudraient bien, selon leur conscience, quelquefois faire certaines choses, mais ils subissent des contraintes, ils ne sont pas libres. Il faut donc que rien n'entrave Dieu. Il faut que les exigences de la sagesse puissent être entièrement satisfaites. Il faut que Dieu soit libre. Les hommes qui sont au pouvoir, lorsque, en leur pensée et en leur conscience, une certaine ligne de conduite s'impose ou s'imposerait, alors il arrive souvent qu'ils ne soient pas libres de suivre cette voie. Et pourquoi? Parce que des contraintes s'exercent sur eux, des intérêts particuliers, par exemple, des contingences diverses, électorales notamment, bah, mais il y en a bien d'autres. Alors, ils sont conduits à faire ce qui n'est pas selon leur cœur. Ils ne sont pas libres. Et nous savons que les plus grands hommes, les hommes au pouvoir, ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Quelquefois, ça vaut mieux qu'ils ne soient pas libres, mais dans bien des occasions, c'est évidemment dommage. Enfin, nous notons, n'est-ce pas, que l'homme, toujours, cette comparaison entre l'homme et Dieu, l'homme n'est pas libre. Ainsi, la liberté divine est la faculté dont Dieu dispose de se déterminer lui-même comme il le veut, c'est-à-dire d'agir toujours et parfaitement dans le sens de l'amour et de la sagesse, dans le sens par conséquent du bien, sans avoir à connaître quelque contrainte qu'elle soit, sans avoir, n'est-ce pas, à se préoccuper de rien d'autre que cela. C'est pourquoi l'Écriture, vous voyez, qui nous enseigne en des termes précis, le libre conseil de son cœur, de sa volonté. Librement. Dieu est donc libre à tous égards, totalement libre d'agir selon les pensées de son cœur, lesquelles sont toujours empreintes d'amour et de justice. Et c'est en raison même de cette liberté, en raison de cette liberté, que Dieu n'accorde aux hommes que certaines choses, que ce qui concourt à leur bien. Nous avons un passage de Romains 8 qui nous dit, n'est-ce pas, que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Parce que Dieu fera concourir, même s'il doit les frapper en quelques moments, n'est-ce pas? C'est pour leur bien. N'est-ce pas? Alors que ceux-là se tiennent bien dans l'amour de Dieu, c'est là que tout vraiment autour d'eux et dans leur cadre de vie concourra à leur bien. Alors Dieu les laissera plutôt pâtir que, par exemple, de satisfaire à leurs désirs. Nous avons des désirs à courte vue. Nous avons des désirs qui ne tiennent pas compte de toutes sortes de sages considérants. Et il ne tient pas compte, d'ailleurs, de l'avenir. Nous n'avons pas de vue dans l'avenir autrement que par l'Écriture, que par le Saint-Esprit. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, nos désirs ne sont pas toujours très bons. C'est pourquoi, lorsque nous demeurons vraiment en Jésus-Christ, bah, demeurons en lui, demeurez en moi, maintenez-vous en moi, soyez dans la communion. Alors là, vraiment, vous aurez de saints désirs. Et vous pourrez demander tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Et alors, je termine sur ce point de la liberté divine en rappelant que Dieu appelle l'homme lui-même à la liberté. Une loi de liberté, puis les Galates nous disent, vous avez été appelés à la liberté, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Pour la liberté, la loi de liberté, dit Jacques. Alors, l'homme est appelé à la liberté, pourquoi? Je pense que vous le savez, je pense que vous y avez réfléchi. Eh bien, on peut répondre à cette question de la manière suivante. D'abord, parce que la foi doit être libre. L'amour aussi doit être libre. On ne peut pas aimer quand on est contraint. On n'aime pas sur commandement, n'est-ce pas? On n'aime pas sur quand on est poussé à le faire par quelqu'un. Il faut que ce soit libre. Alors donc, la foi elle-même demande à s'exercer dans la liberté. L'amour lui-même ne peut s'exercer que dans la liberté. Et puis notons enfin cette troisième réponse à cette question, pourquoi Dieu appelle-t-il l'homme à la liberté? Eh bien, parce que l'homme est appelé à la ressemblance de Dieu. Et comme Dieu est libre, il faut que l'homme, dans la ressemblance à Dieu, soit lui aussi libre. Et nous serons libres lorsque nous serons dans la perfection, parfaitement libres, et nous ne serons assujettis à la volonté de Dieu qu'à travers l'amour et par le moyen de l'amour uniquement, dans la liberté. C'est grand ce que Dieu veut faire. On pourrait dire, à vue humaine, c'est risqué. Mais oui, mais Dieu encourt le risque parce qu'il réussira dans ses desseins. Et nous arrivons maintenant au troisième attribut de ce groupe qui s'appelle la véracité de Dieu. Alors, cette véracité de Dieu, elle est, notre version second, emploie le mot une fois dans Romains 15, verset 8.
Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en la confirmant, en confirmant les promesses faites au Père. Pour prouver la véracité de Dieu. Et puis, nous avons différents passages. Je ne vais pas m'y arrêter, mais enfin, Psaume 19, verset 10, Ésaïe 45, verset 19, Daniel 4, verset 37, et qui, et bien d'autres, l'évangile de Jean aussi, bien les passages où disent Dieu est vrai. Sa parole est vraie, mais lui aussi est appelé vrai. Dieu est vrai. Puis, dans d'autres textes, nous avons Dieu et Jésus-Christ est appelé le véritable. Le véritable. Et puis, enfin, l'Esprit de Dieu, qui est personne divine, l'Esprit, n'est-ce pas, personne divine, est appelé trois fois dans l'Évangile de Jean l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Alors, ces passages, nous n'avons pas le temps de les voir maintenant, mais prenons acte de cela, le Dieu est vrai, il est le véritable, il est l'Esprit de vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vérité prend dans la Bible un sens absolu, qui ne devrait pas nous échapper. Un sens absolu. Il ne s'agit pas seulement de l'exactitude d'un fait rapporté, d'un événement relaté. Il ne s'agit pas seulement, évidemment, quand n'est-ce pas, nous employons ce mot, ah ben oui, ça c'est vrai, ou ça c'est la vérité, ça c'est bien la vérité, ça s'est passé comme ça, c'est bien ça. Pas l'exactitude. C'est tout autre chose dans la Bible. Il y a bien l'exactitude à la base. Mais la vérité a un sens absolu dans l'Écriture. Et il s'agit d'une vérité unique. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Une vérité unique, une vérité absolue, une vérité éternelle. Jean dit dans sa troisième épître que la vérité sera avec nous pour l'éternité. Une vérité, donc une réalité éternelle. La vérité est, on peut dire, l'un des grands caractères de toute œuvre de Dieu. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis la vérité », « Je suis la vérité », « Je suis le chemin, la vérité et la vie », n'est-ce pas ? Eh bien, il a dit tout autre chose que lorsque il s'est exprimé comme ceci « Je dis la vérité ». Je dis la vérité, ce qui signifiait ceci « J'affirme » que mes paroles traduisent bien la grande réalité que j'ai à vous enseigner, à vous apprendre. Et quand il a dit « Je suis la vérité », alors il a voulu dire tout autre chose, il a voulu dire « Je manifeste Dieu et la vie de Dieu ». Je suis, c'est pour ça, personnellement, il est. Il manifeste Dieu dans ce grand caractère qui est Dieu est vrai, Dieu est le véritable, lui est le véritable, il manifeste. Et déjà, rien qu'en cette déclaration, ceux qui comprennent les Écritures et qui ne sont pas des gens aveuglés, des gens qui ne s'appuient que sur une étude littérale restreinte des Écritures, on voit déjà là, il doit voir la divinité de Jésus-Christ. Ainsi, les paroles de Jésus-Christ traduisent la grande réalité de Dieu, elles manifestent Dieu, ces paroles apportent la réalité divine à laquelle l'homme est fermé, est étranger, l'homme qu'il vient sauver, l'homme qui est perdu, il est étranger à cette réalité divine. Et Jésus la manifeste en sa personne, par ses paroles, en sa personne aussi. C'est pour ça que, n'est-ce pas, la seule manière, la seule expression possible était pour Jésus-Christ, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie et la vie. Jésus fait en premier ce que continuera de faire l'Esprit de vérité. N'oublions pas que Jésus est le premier consolateur. Je prends ce mot de nos versions le premier consolateur. Car quand il parle du Saint-Esprit, il dit qu'il retourne au Père et qu'il reviendra. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, est appelé un autre consolateur. Et le premier consolateur, c'est Jésus. Et Jésus, donc, lui, fait en premier ce que va faire ensuite, pendant toute la carrière de l'Église, l'Esprit de vérité. Or, Jésus, personne divine, et Esprit de vérité, sont l'un et l'autre la vérité. Jésus, en tant que personne divine, et l'Esprit de vérité, qui est également une personne divine, sont l'un et l'autre la vérité, comme le Père est la vérité. Donc la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est la vérité. Et la vérité désigne ainsi la réalité de Dieu. Tout ce qui fait la réalité de Dieu, tout ce qui fait la puissance de Dieu, tout ce qui fait que Dieu est seul à faire vivre et que sa volonté doit être accomplie pour que l'on vive, eh bien tout cela, c'est la vérité, la grande réalité de Dieu, se révélant par le moyen de la parole puissante. Ainsi, connaître la vérité, c'est pas seulement connaître la doctrine ou connaître la lettre de la Bible, connaître un certain nombre de versets et de passages. Ce n'est pas cela seulement. Connaître la vérité, c'est être sanctifié par la vérité. Il faut que nos vies soient sanctifiées par la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, pas seulement pour défendre une doctrine. Bien sûr, il faut qu'elle le fasse, elle défend la véracité de l'Évangile, mais pas seulement pour cela. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, parce que l'Église doit apporter le témoignage d'une vie sanctifiée. Mes amis, pensons à cela. L'Église doit apporter le témoignage d'une vie sanctifiée, sans quoi elle n'est pas l'Église, elle ne se montre pas comme l'Église. Mais pas seulement, n'est-ce pas, de parler de ce que nous savons de Jésus-Christ, des voies du salut, de la doctrine, tout ça. Non, c'est d'apporter une vie sanctifiée, c'est-à-dire une vie qui a pour principe même la vie de Jésus-Christ, la vie de résurrection de Jésus-Christ, une vie qui est donc à l'image de celle de Jésus-Christ. Connaître la vérité, c'est être attaché à Dieu, c'est vivre dans une pleine obéissance à sa volonté par le moyen de la grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.